Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jordan Bardella, président du RN et député européen.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Votre campagne, la bataille pour le second tour, le duel avec Éric Zemmour, la remigration, la guerre en Ukraine, Total Energy, l'affaire McKinsey et bien d'autres sujets que nous allons aborder. Alors commençons tout de même par le président ukrainien Zelensky, qui va s'exprimer cet après-midi en visio devant les parlementaires français. Finalement, Marine Le Pen, qui était un peu hésitante, et les députés RN devrait être présent. Il y a eu hésitation ou pas ?
Non, il n'y a pas eu hésitation. Marine Le Pen est en campagne présidentielle. Elle a un agenda évidemment très chargé, vous le savez. Elle s'est libérée de ses obligations pour pouvoir être à l'Assemblée nationale et écouter le président ukrainien avec l'ensemble des parlementaires.
Est-ce que c'est un modèle de résistance pour vous ?
Bah c'est oui, c'est un modèle de résistance, c'est-à-dire qu'il est toujours admirable de voir un chef d'État, même si vous me direz que c'est le travail et c'est le job d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays, qui plus est lorsque celui-ci est menacé, lorsque celui-ci est en guerre. Personne ne sait jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Et moi, j'essaie de me... Enfin, en tout cas, c'est la position qu'on a adoptée jusqu'à présent, à la fois de respecter le travail de la diplomatie française et de ne pas entraver le travail d'Emmanuel Macron, qui, pour le coup, a essayé de maintenir un lien diplomatique avec la Russie. Et je pense que la France a eu raison de le faire. Et surtout, de se garder de tout excès verbal d'un côté comme de l'autre, de faire de la surenchère verbale en insultant tel ou tel parti, les uns de nazis, les autres de fascistes, etc., etc. Je pense qu'il faut être très prudent parce que en géopolitique, si c'est pas la diplomatie, c'est la guerre. Bon, la France n'a aucun intérêt à entrer en guerre avec la Russie. Il est évident de rappeler que deux puissances nucléaires qui se feraient la guerre, alors ça serait la destruction mutuelle. Donc il faut maintenir une pression diplomatique sur la Russie. Je pense que la France peut être présente militairement dans les pays annexes, notamment en Roumanie. Il y a déjà des soldats français et je pense que c'est une bonne décision qu'a prise la France. Maintenant, sur le reste, vous savez que nous, on a soutenu le principe de sanctions sur les dirigeants russes, sur les dirigeants du Kremlin, mais qu'on est assez prudent sur des sanctions économiques prises un peu n'importe comment, qui pourraient avoir une contrepartie très dure pour les Français, notamment pour nos entreprises, et notamment pour le pouvoir d'achat des Français, puisque vous savez qu'une partie du gaz européen, notamment, arrive directement de la Russie. C'est 40% du gaz européen.
Par exemple, Total Energy annonce mettre fin à l'achat de pétrole et de produits pétroliers en provenance de la Russie d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une bonne décision ou pas ?
Mais ça, c'est le choix d'une entreprise privée.
Oui, mais c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise nationale assez importante.
Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est d'une part les conséquences de cette crise sur les prix des carburants. Et les Français aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur voiture. Il y a des millions de Français qui ont besoin, contrairement à ce que pensent les Verts, ont besoin de leur voiture pour aller bosser, ont besoin de leur voiture pour aller faire les courses, ont besoin de leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école et n'arrivent plus aujourd'hui à faire le plein complet de leur voiture. On ne peut pas se satisfaire d'un plein de carburant qui soit de 2,30, de 40, de 50. Et vous le savez, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, la première mesure que nous prendrons dès le lendemain de son élection, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5 sur tous les énergie, le fuel, l'électricité, le gaz, le carburant, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français.
Oui, non, mais ça,
Il faut savoir que 60% des prix des carburants sont des taxes, et cette situation est évidemment inadmissible.
Vous ne m'avez pas répondu, Jordan Bardella. C'est quand même une bonne décision de la part de Total Energy ou pas ?
C'est la décision de Total, c'est une décision d'une entreprise privée. Je veux dire, on n'est pas, pas en URSS, c'est la décision d'une entreprise privée.
Oui. Je dis juste que êtes aussi citoyen et responsable politique.
Je dis juste que attention à ce que sanctionner la Russie ne revienne pas à se sanctionner soi-même. Les sanctions économiques qui ont été prises notamment sur les filières agricoles russes depuis 2014 par l'Union européenne ont eu des conséquences dramatiques pour les agriculteurs français puisque ça a fait baisser de 14% les exportations agricoles européennes vers la Russie. Et surtout, ça jette la Russie dans les bras de la Chine. Je pense que personne n'a intérêt à jeter la Russie dans les bras de la Chine. Et je vous rappelle que les sanctions économiques qui ont été prises depuis 2014 contre la Russie ont permis à la Russie de devenir l'un des premiers exportateurs de blé au monde et de renforcer son autonomie stratégique. Oui. Donc attention à ne pas renforcer non plus l'autonomie stratégique de la Russie.
Alors, comment vous jugez justement la position d'Emmanuel Macron ? Parce que d'un côté, il est médiateur, il entretient le contact avec Vladimir Poutine comme avec Zelensky. Et puis de l'autre côté, c'est lui qui mène un petit peu aussi le bal des sanctions en Europe.
Je pense que... Vous savez, on a été très prudents et je pense que c'est pas notre rôle que d'entraver l'action diplomatique de la France. Emmanuel Macron a voulu être un peu chef de guerre. Il n'est pas chef de guerre, la France n'est pas en guerre, il est au mieux le chef de la diplomatie, vous le rappelez, le chef de la diplomatie européenne, puisque la France est à la tête de la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois. Donc on a été très prudents, si vous voulez, on n'a pas les données que détient l'État, que détient Emmanuel Macron, que détient l'armée française. Donc on a été très prudents, nous, sur le fait de ne pas entraver l'action de la France. Je pense qu'il a eu raison de maintenir un lien diplomatique avec Vladimir Poutine, nous l'aurions fait également, et d'essayer de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver un compromis, à la fois une désescalade du côté russe et la non-entrée dans l'OTAN du côté ukrainien.
Petite parenthèse au passage, puisqu'on parle d'argent...
Et je vous dis ça malgré les désaccords que j'ai avec Emmanuel Macron et malgré la campagne électorale.
Oui, petite parenthèse au passage, puisqu'on évoque les questions d'argent et puis de relations avec l'Est, les questions d'argent pour le Rassemblement National, où en êtes-vous ?
C'est-à-dire ?
Les questions d'argent, c'est-à-dire votre emprunt pour financer en fait votre campagne, et puis il y avait des relations à un moment donné avec les banques russes également, non ?
Non, il n'y a pas eu de... On a souscrit un prêt en 2015, lors des élections régionales auprès d'une banque tchéco-russe, d'une banque, du Kremlin, d'une banque tchéco-russe, parce que nous n'avions trouvé aucune banque française, ni aucune banque européenne qui acceptait de jouer le jeu de la démocratie et de prêter au Rassemblement National. Et Marine Le Pen a été la seule candidate en 2017 à ne trouver aucun prêt bancaire. Donc nous avons trouvé un prêt auprès d'une banque européenne pour financer la campagne présidentielle. Mais c'est vrai que c'est une campagne aussi qui fonctionne à l'économie. On a fait le choix d'une campagne de proximité. Ouais. Et c'est vrai que tout au long de cette campagne, Marine Le Pen a fait le choix d'être la candidate de cette France des oubliés, au plus proche des Français, au plus proche des territoires. Et les sondages la donnent aujourd'hui qualifiée pour le second tour. Si les Français votent, alors elle gagnera cette élection présidentielle.
L'enjeu, c'est la mobilisation sur les sondages. Ça n'a pas toujours été le cas.
Électeurs.
Jordan Bardella, pour une fois, vous appuyez sur les
sondages.
Pourquoi vous dites ça n'a pas toujours été le cas. Je vous ai entendu ou parfois dire attention, ne croyez pas au sondage quand on donnait Emmanuel Macron vainqueur.
Non, je dis que ceux qui tentent de faire croire aux Français que l'élection est déjà jouée leur mentent. Emmanuel Macron souhaite que les gens n'aillent pas voter. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs, il a tout fait pour ne pas faire campagne. Il a attendu le dernier jour pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Il a fait en sorte de ne faire aucun débat avant le premier tour et de n'avoir à répondre à aucun des éléments de son bilan. Parce qu'il y a un bilan. Il y a des retraités qui vivent 8 euros par jour. C'est lui, les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes qu'il a lui-même suscité par son arrogance, son mépris, son attitude. C'est lui, l'explosion des cambriolages, de l'insécurité, des agressions. C'est lui, les 1 275 000 titres de séjour qui ont été accordés depuis 2007. C'est lui. Donc je dis aux Français, est-ce qu'on continue 5 ans de plus? Parce que la politique d'Emmanuel Macron, elle est dans tout. À commencer par les 60% de taxes sur les carburants que vous payez quand vous allez faire le prix du litre. Donc, si vous voulez, on ne peut pas en même temps, et je le dis avec bienveillance, se plaindre de la politique d'Emmanuel Macron et ne pas aller voter. Je le disais, vous parliez des sondages, Marine Le Pen est aujourd'hui donnée qualifiée pour le second tour dans tous les instituts de sondage. Ça indique une dynamique très forte en sa faveur. Et surtout, elle est dans la marge d'erreur au second tour. Ça veut donc dire qu'elle peut gagner cette élection présidentielle.
Marge d'erreur, non, c'est quand même assez loin pour l'instant.
Il y a quelques jours, là, de 46%, avec des marges d'erreur de 2 à 3 points, ça veut donc dire qu'elle est quasi à égalité avec Emmanuel Macron. Qui veut donc dire qu'elle peut gagner cette élection présidentielle. Et que si le peuple vote, alors le peuple gagne. Et que si les Français se déplacent, alors Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle.
Et votre rivalité avec Éric Zemmour. Alors, première question, il promet une démonstration de force dimanche prochain. Ça vous fait peur ou pas ?
Non, pas du tout. Il y a une campagne électorale. Éric Zemmour est aujourd'hui, dans un certain nombre d'instituts de sondage, donné sous la barre des 10%. Donc moi, je dis à ces électeurs qui sont des patriotes sincères, ne gaspillez pas votre voix, ne vous dispersez pas. Je pense qu'il faut voter aujourd'hui utile, il faut voter pour la candidate la mieux placée. Et si il y a cette inquiétude chez beaucoup de Français,
avec Éric Zemmour, parce que vous pensez au second tour.
Mais on n'est pas en guerre, on a eu des stratégies différentes. Éric Zemmour, il a fait le choix de porter un témoignage dans cette élection présidentielle.
Il n'a pas été très sympa avec Marine Le Pen dans ses déclarations.
Si vous voulez, ça c'est la campagne électorale.
D'accord.
Mais je pense que ces électeurs sont des patriotes sincères. Et je pense que ces électeurs ne veulent pas de la réélection d'Emmanuel Macron. Or, s'ils ne veulent pas de la réélection d'Emmanuel Macron, il faut voter pour la candidate la mieux placée, qui défend leurs idées, qui peut arriver au second tour, c'est-à-dire Marine Le Pen, et qui peut battre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il faut se résoudre au fait que Éric Zemmour ne peut pas se qualifier pour le second tour. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen est donnée à 20, Éric Zemmour est donnée à 9. Donc, si vous voulez, à moins d'une remontada en 24 heures, ce qui est impossible, il ne se qualifiera pas pour le second tour. Et il ne se qualifiera pas parce que je pense qu'il n'est pas en capacité de rassembler les Français.
Et là, surtout avec sa proposition, par exemple, de ministère de la rémigration. Vous pensez qu'il divise ou vous pensez qu'il essaie justement de faire des propositions entre guillemets, hein, mets bien entre guillemets, innovantes, quoi.
Non, c'est pas des propositions innovantes. Je veux dire, reprendre les propositions du Parti de la France de Thomas Joly, je pense que c'est pas innovant. Je pense en revanche que aujourd'hui, Éric Zemmour est dans un toboggan dans les sondages, sa campagne patauge, et qu'il essaie de trouver des propositions les plus radicales, les plus démagogiques possibles pour essayer de se distinguer. Il n'y a pas de ministère de la remigration. Je veux dire, le ministère qui s'occupe de l'immigration en France, je ne parle pas de la remigration, je parle de l'immigration en France, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Ouais. Bon. Or, nous, on a des propositions très concrètes à faire là-dessus. Éric Zemmour a porté un témoignage, je le disais. Mais que propose-t-il sur le pouvoir d'achat? Lui qui expliquait il y a quelques mois que c'était pas le sujet du président de la République que de s'occuper de la question du pouvoir d'achat. Bon. Lui qui, comme Emmanuel Macron, propose de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Donc, je veux dire, je pense qu'il... Le fait de ne pas avoir pris en compte cette inquiétude des fins de mois difficiles des Français, il est aujourd'hui en train de le payer dans les sondages. Oui. Nous, on a toujours marché sur nos deux jambes et fait en sorte de répondre à la fois à la question de l'inquiétude de la fin de la France pour beaucoup de Français qui se sentent étrangers sur leur propre sol dans beaucoup de quartiers, avec des propositions concrètes sur la sécurité, sur la lutte contre l'islamisme, sur l'immigration, et en même temps des réponses très concrètes sur le pouvoir d'achat. Alors, pour rendre, dès notre élection, 150 à 200 euros de pouvoir d'achat
par an aux Français. Et d'emploi, Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition autour du RSA, du président de la République, qui est revenu un petit peu sur, avec ses ministres sur les modalités, quoi. C'est-à-dire avec la contrepartie.
Là aussi, c'est un vieux totem. Je veux dire, la contrepartie du RSA, c'est l'exigence d'une formation. Cette exigence d'une formation, elle existe déjà dans la loi depuis longtemps. Moi, j'entends que il y a un ras-le-bol auprès d'une forme d'assistanat aujourd'hui en France. Je pense qu'elle est minoritaire. Je veux dire, les bénéficiaires du RSA, c'est quasiment 2 millions de personnes en France. Ça a baissé un peu ces 6 derniers mois. En réalité, le taux d'assistanat parmi les bénéficiaires du RSA, il est assez minoritaire. Donc oui, il y a une lutte à mener contre la fraude. Ouais. Et vous savez que la première mesure que nous souhaitons prendre, ça permettra de faire des économies dans le budget de l'État, c'est la priorité nationale, c'est-à-dire de réserver l'ensemble des aides sociales aux Français, et notamment le RSA. Vous vous souvenez que Charles Prasse, le magistrat que vous aviez reçu, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le cartel des fraudes, dans lequel il pointe un certain nombre de dérives, et notamment d'abus. Il y a le train de vie, des délinquants en banlieue qui ont certainement des belles voitures et qui, pour beaucoup, bénéficient de prestations sociales. Il y a ces djihadistes qui sont partis combattre en Syrie ou en Irak et qui bénéficiaient de prestations sociales. Vous savez, Charles Prasse avait donné l'exemple du fondateur de Daesh qu'il avait surnommé Abou Alok et qui était parti en 2013, un djihadiste belge qui s'était inscrit à la sécurité sociale française et qui bénéficiait de prestations sociales. Donc, croyez-moi, des économies sur la fraude, il y en a beaucoup à faire. Il y a 7 millions de cartes vitales en circulation entre eux. On peut mettre en place la carte vitale biométrique avant d'aller expliquer comment vous avez que pris ce sont les Français qui ne veulent pas
Jordan
travailler.
Bardella, comment vous avez pris la petite phrase de Christophe Castaner qui a dit « l'allocation, c'est la réponse des lâches ».
Je vous avoue que j'écoute assez peu les entretiens de Christophe Castaner.
Oui, mais c'est ce qu'il a dit, et ça se met en fait du côté de la gauche, justement, l'effroi en quelque sorte.
Je pense que si vous voulez, Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait preuve d'une brutalité sociale inouïe en 5 ans. Ouais. La crise des Gilets jaunes, c'est eux.
Bon, vous voulez
c'est
pas commenter
eux qui l'ont. Non, je pense que les gens ne s'intéressent pas trop aux déclarations de Christophe Castaner.
Ah, bah si, d'ailleurs. Il est quand même, personnage important dans la Macronie.
Je pense pas du tout.
Attendez, mais il a été ministre. Il pourrait être
6 mois.
Il
était tellement bon qu'ils l'ont gardé que 6 mois et qu'ils l'ont remplacé par M. Darmanin.
Ah bon, d'accord.
Donc, bien sûr. Donc je pense que si Emmanuel Macron est réélu, la casse sociale va s'accélérer. Et c'est ce que les Français doivent avoir en tête. Si Emmanuel Macron est réélu, la saignée fiscale va s'accélérer et la casse sociale va s'accélérer. Et je rappellerai aux auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent que la première décision qu'a prise Emmanuel Macron quand il a été élu président de la République, ça a été en 2017 d'augmenter la TICPE, c'est-à-dire d'augmenter les taxes sur l'essence. Donc voilà ce qui nous attend si Emmanuel Macron est réélu dans trois semaines.
Encore
donc,
un mot.
La meilleure arme face au bilan du gouvernement, c'est le bulletin de vote.
Oui, bon, Jordan Bardella, encore un mot. Marine Le Pen, elle a souvent critiqué l'administration. Est-ce que si elle était présidente de la République, elle aurait recours à des cabinets de conseil comme McKinsey, par exemple, quoi.
Je pense qu'on
est souvent critique avec l'administration.
Je pense qu'on est au bord du scandale d'État. Et je regrette que l'affaire McKinsey, parce que c'est une affaire McKinsey, fasse si peu de bruit. Nous apprenons donc que sur l'intégralité du quinquennat, Emmanuel Macron et son gouvernement ont payé 3 milliards d'euros, presque 4, d'argent public à des cabinets de conseil dont là, 41 millions d'euros. Donc, exactement, donc 41 millions d'euros à McKinsey pendant la gestion du Covid. Manifestement, les résultats étaient formidables et exceptionnels. Je vous rappelle que la ministre Amélie de Montchalin de la fonction publique avait sous serment donc menti devant la représentation nationale en expliquant que les dépenses pour les cabinets de conseil n'avaient pas augmenté. Elles ont explosé sous Emmanuel Macron, elles ont même doublé depuis 2018. Et je rappelle que ce sont des cabinets de conseil étrangers, oui, privés donc, et dont on a appris par l'intermédiaire d'un rapport parlementaire du Sénat, d'une commission d'enquête du Sénat, que McKinsey ne payait pas ses impôts en France et faisait de l'optimisation fiscale dans un paradis fiscal.
Ouais, que McKinsey va payer.
Cet entre-soi, ce copinage, je pense qu'il doit être sanctionné dans les urnes. Permettez-moi de vous rappeler ce que disait Alain Minc, qui n'est pas de ma chapelle, qui est un ami d'Emmanuel Macron. Il disait Emmanuel Macron est l'ami des consultants. Tout simplement parce qu'il est comme eux. Ouais. Donc, si vous voulez, cet entre-soi élitaire doit être aussi, je crois, sanctionné dans les urnes.
Est-ce qu'il doit y avoir d'autres actions qui peuvent être menées? Quelle autre suite? La justice, par exemple, ou pas?
Oui, je pense d'abord que la lumière doit être faite sur cette affaire. Et je pense que, surtout, on dit toujours, il n'y a pas d'argent. Ouais. Vous savez, c'était le quoi qu'il en coûte. On était toujours, il n'y a pas d'argent magique. Je pense qu'il s'agisse de la fraude. Ouais. Sociale dont on a parlé, de la fraude fiscale pour les élites, de ce recours à des cabinets privés pour faire prendre des décisions d'intérêt général. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans les mauvaises dépenses de l'État pour rendre ce pouvoir d'achat aux Français et assainir les finances publiques.
Mais alors, j'ai pas compris, vous appelez la justice à saisir de cette affaire ou pas, Jordan Bardella?
Je pense que la représentation nationale et les parlementaires doivent évidemment faire la lumière sur cette affaire. Mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas laisser ces gens-là prendre des décisions dans un entre-soi, des décisions qui sont contraires à l'intérêt général et qui remettent le volant de la France, le volant de la voiture France, à des intérêts privés et à des cabinets de conseil privés qui ne paient même pas leurs impôts en France et qui sont des cabinets américains. Enfin, je veux dire, c'est fou cette histoire. Donc, encore une fois, face à cela, il faut voter.
Merci Jordan Bardella, président du RN, député européen, qui était l'invité de Sud Radio.
Dans un instant, la revue de presse. À tout de suite.